Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 100, Daf Kouf. Bonne écoute et bon limoud.
Ravashi amar, kol min hatzad derech hakalton hi. Tout chemin qui est déplacé sur le côté est considéré comme un chemin tordu, et cela parce que krova leze ou roka leze. Ce chemin peut être plus proche pour certains, mais plus loin pour d'autres. C'est-à-dire, même si certains ont gagné par le fait que ce chemin a été déplacé sur le côté, parce qu'il est plus proche de leur maison ou de leur ville, il sera forcément plus éloigné pour d'autres personnes dont le chemin a été éloigné de leur ville ou de leur maison. Donc, selon lui, les Chachamim ont empêché l'échange en toutes circonstances. Alors, la Gemara demande, « Vele malehu, le propriétaire du champ n'a qu'à dire au public, « Chaklou didrou, vehavou lididi, reprenez votre ancien chemin et rendez-moi le nouveau chemin que je vous ai donné. » Puisque finalement, les Chachamim ont interdit l'échange pour les raisons que nous avons vues. La Gemara répond, « Hamane Rabbi Eliezerhi. » L'auteur de cette Mishnah est Rabbi Eliezer, d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, « Rabbi Yuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbim Shebaruru Derech Leatzmam, un public qui s'est choisi un chemin à travers un champ, Mache Baruru Baruru, ceux qu'ils se sont choisis et choisis, en d'autres termes, ils ont acquis ce chemin, il sera impossible de le leur reprendre. » La Gemara demande, le Rabbi Eliezer, Rabbim Gazlanim Ninhu, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, le public peut être voleur, c'est-à-dire le public a-t-il droit de voler? La Gemara répond, Amarav Gidal Amarav, Kegon Sheavda Lahem Derech Beota Sade. Il s'agit par exemple d'un cas où le public a perdu un chemin dans ce champ. C'est-à-dire auparavant, le public avait un chemin qui traversait ce champ, et celui-ci, pour une raison ou une autre, a disparu. Alors bien que s'il s'agissait d'un particulier, celui-ci n'aurait pas pu reprendre le chemin sans attaquer le propriétaire du champ en justice, mais lorsqu'il s'agit d'un public, celui-ci pourra choisir lui-même son chemin, et celui-ci lui sera acquis, parce que de toute façon, ce public avait un droit de passage à travers ce champ. Nous voyons donc que selon l'opinion de Rabbi Eliezer, le public a plus de droits qu'un particulier, et par conséquent, le public peut reprendre le chemin qui lui revient sans accord du propriétaire. Nous pouvons donc conclure qu'à plus forte raison, lorsque le propriétaire accorde un chemin au public, que celui-ci l'aura acquis, même si par la suite il s'avère que c'était par erreur. Alors la Gemara demande, « Yahi, si c'est ainsi, si c'est cela que Rabbi Eliezer a voulu dire, que le public peut reprendre son chemin qui lui revient de droit, Amai Amar Rabba Baravuna Amarav en halakha que Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que Rabba Baravuna a dit au nom de Rav que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, puisque finalement, ce chemin revient de toute façon de droit au public? La Gemara répond, « Man de matneha, lo matneha. » Celui qui a enseigné cela n'a pas enseigné cela. C'est-à-dire, Rav Gidal qui a interprété l'opinion de Rabbi Eliezer dans un cas où ce chemin revenait de droit au public, n'a pas enseigné que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Rabba Baravuna qui a enseigné que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, ne l'a pas interprété comme parlant d'un cas où ce chemin revenait de droit au public. Selon lui, l'opinion de Rabbi Eliezer est que même lorsque le public a volé un chemin, on ne peut pas leur retirer ce chemin. La Gemara demande, Veta Mamai, selon l'opinion de Rabba Baravuna, selon laquelle Rabbi Eliezer accorde le droit au public même de voler un chemin. Et d'ailleurs, selon lui, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Finalement, la Mishnah ne peut pas suivre l'opinion de Rabbi Eliezer. Alors, pour quelle raison, dans notre Mishnah, le propriétaire du champ ne peut pas récupérer le chemin qu'il a donné au public, puisque l'échange a été interdit par les Chachamim? La Gemara répond, Mishum de Rabbi Yehuda, à cause de l'enseignement de Rabbi Yehuda. D'Ama Rabbi Yehuda, Metzar Shehirziku Bo Rabim, un talus servant de bordure entre deux terrains que le public s'est approprié comme passage avec approbation silencieuse du propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire le savait et n'a rien dit, assur le calcolo, il est interdit de l'abîmer, il est donc interdit de retirer ce chemin au public. Nous pouvons donc déduire de là que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'à plus forte raison, il sera interdit de retirer au public un chemin qu'une personne a donné consciemment à celui-ci. Donc dans le cas de notre Mishnah, où le propriétaire a donné de lui-même un chemin au public, même s'il s'avère par la suite que c'était une erreur, il ne pourra plus le retirer du public. En la Gemara demande, on peut encore comprendre selon Rav Gidal, qui dit que selon Rabbi Eliezer, le public peut reprendre un chemin qui lui appartenait. Pour cela, il n'a pas besoin d'acte d'acquisition. Mais selon Rabba Baravuna, qui dit que Rabbi Eliezer parle d'un cas où le public a volé un chemin, Rabbi Eliezer Rabbim Bemaï Kanoulé, comment est-ce que le public a acquis ce chemin pour qu'il soit impossible de le lui retirer? L'Agma répond, Behilucha, en marchant dessus. C'est-à-dire, en utilisant ce chemin, il l'a acquis d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Halarba, Leorka, Ulrorba, celui qui a marché dans un terrain en long et en large, avec l'intention de l'acquérir, Kana Makomilucho, il a acquis l'endroit où il a marché. C'est-à-dire donc, par exemple, quelqu'un qui veut acheter un terrain, et il l'a traversé de long en large, il a acquis là où il a marché. Divrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, en hiluch moil klum ad shiarzik. Le fait de marcher dans un terrain ne sert à rien jusqu'à ce qu'il fasse un acte d'acquisition, comme nous l'avons vu plus haut, daf membet dans la Mishnah et daf nun gimel dans la Gemara. C'est-à-dire en faisant une clôture ou en ouvrant une brèche ou en installant une serrure. Amar Rabbi Elazar, maïta amad Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, d'où sait-il qu'on peut acquérir un terrain en le traversant de long en large? Il répond, dirtiv, parce que le pasuk dit dans Bereshit Yud Gimel, c'est à Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à Avraham Avinu, kum hitalech ba'aretz, leorka ulrochba, va, marche dans le pays d'Eret Israël et traverse-le de long en large, kilecha etnena, parce que je te la donnerai, c'est-à-dire je te donnerai cette terre. Nous voyons donc qu'en marchant dans une terre, on peut l'acquérir. Verabanan, et les Chachamim qui discutent avec Rabbi Eliezer pensent qu'il n'y a pas de preuve de ce pasouk. Et cela parce que Hatam, là-bas, Mishum Chavivuta de Abraham, Hu de Kamarle Hachi. C'est à cause de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu avait pour Abraham qu'il lui a dit ainsi. Donc il lui a dit de traverser la terre d'Eret Israël de long en large, pour que la conquête d'Eret Israël soit facile pour ses descendants. Autrement dit, il s'agissait d'un acte d'acquisition symbolique pour faciliter la conquête d'Eret Israël et que les forces du mal n'aient rien à redire là-dessus. Amar Rabbi aussi be Rabbi Chanina, modim chachamim le Rabbi Eliezer. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer be shvil shel kramim. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse les vignobles. C'est-à-dire lorsqu'une personne vend un chemin qui traverse les vignobles, ho il venase leilouch, puisque ce chemin est destiné à la marche, nikne beilouch, il sera acquis par la marche. C'est-à-dire nous avons vu plus haut d'Afnun Gimel Amud Bet que le fait d'utiliser un terrain par exemple, pour dormir dessus est considéré comme acte d'acquisition. Alors, le fait de marcher sur un chemin est aussi considéré comme un acte d'acquisition. Donc finalement, puisque nous parlions plus haut d'un chemin acquis par le public, même les Chachamim seront d'accord qu'ils l'auront acquis en marchant dessus. Qui a tous les kamés de Rabbi Yitzhak Barami, lorsqu'il se présentait devant Rabbi Yitzhak Barami, c'est-à-dire lorsque deux personnes se présentaient devant Rabbi Yitzhak Barami, concernant un différent sur la largeur ou la taille d'un chemin, Amar Lehu, il leur disait, Havoule, donnez-lui, c'est-à-dire à l'acheteur, qui est ri de dare tuna de shabishta vehada, un chemin assez large pour que cet acheteur puisse se promener dans ce chemin avec un chargement de sarments de vigne et qu'il puisse se retourner sans encombre. Alors, l'Agmara conclut là-dessus, Velo Amran, nous disons cela que le chemin a besoin d'être tellement large, et la de mesaimin mechitsata. C'est uniquement dans le cas où ce chemin est délimité par une clôture. Celui-ci devra donc être suffisamment large pour pouvoir se retourner avec un chargement de branchage sur les épaules. Aval lomesaimin mechitsata, mais si ce chemin n'est pas délimité par une clôture, celui-ci n'aura pas besoin d'être tellement large. En effet, le vendeur pourra lui donner uniquement un chemin d'une largeur qui lui permettra qui écrit des shakil kara ou manar kara de lever un pied et de poser un pied. C'est-à-dire de marcher un pied devant l'autre. Autrement dit, le vendeur pourra cultiver tout son champ tout en laissant uniquement un passage où l'acheteur placera un pied devant l'autre, parce que même en portant un chargement, il pourra se retourner sans encombre, parce que ce chemin n'est pas délimité par une clôture qui puisse le gêner. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Derech hayachid arba amot » un chemin privé sera d'une largeur de 4 coudées. Donc celui qui vend un chemin privé à travers son champ, celui-ci devra être d'une largeur de 4 coudées. Tana, il a été enseigné dans une braïta, Acherim Omrim, il y en a d'autres qui disent, il s'agit de Rabbi Meir, Kedeshe Yavor Hamor Bemasui. ce chemin devra être suffisamment large pour permettre à l'acheteur de passer avec un âne chargé. Amar Rav Huna, halakha ki acherim. L'halakha est comme acherim, donc comme Rabbi Meir. Selon le Rashbam, nous lisons Dayane Gola Amre, les juges de Gola, c'est-à-dire de la ville de Pumpedita, disaient, il s'agit de Shmuel et de Karna, la largeur d'un chemin privé sera de Shne Gamadim ou Mertza, deux coudées courtes et demi. C'est-à-dire, la coudée normale se mesure à partir du coude jusqu'au majeur. La coudée courte se mesure à partir du coude jusqu'aux phalanges. Cette coudée courte ne fera donc pas, comme en général, 60 cm, mais environ 50 cm. Donc deux coudées, coudées et demi feront environ 1,25 m. Ve'amar Rav Huna, halakha kedayane gola. L'halakha est comme les juges de la ville de Gola. Alors la Gemara demande, ve'amar Rav Huna halakha k'acherim. Pourtant Rav Huna dit que l'halakha est comme acherim, comme Rabbi Meir, qui dit que la largeur d'un chemin privé est suffisant pour permettre le passage d'un âne chargé. La Gemara répond, idi veidi chad shiuraou. Ces deux mesures sont équivalentes. C'est-à-dire la mesure de deux coudées courtes et demi qu'ont donné les juges de la ville de Gola est équivalente à celle donnée par Acherim, qui est la largeur suffisante pour permettre le passage d'un âne chargé. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, derech harabim sheshesre ama. La voie publique sera d'une largeur de 16 coudées. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Derech hayachid arba amot. Un chemin privé sera d'une largeur de 4 coudées. Derech meir leir, un chemin qui va d'une ville à l'autre, mais qui ne dessert que ces deux villes, sera d'une largeur de 8 coudées pour permettre le croisement de deux charrettes.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kouf Amoud Bet. Derech Harabim, une voie publique qui ne dessert pas seulement deux villes, mais qui permet de traverser une région ou un pays, Sheshesre Amot, devra avoir une largeur de 16 coudées. Derech Harem Miklat, le chemin ou la route qui permet d'accéder aux villes de refuge, c'est la ville où une personne qui a tué par mégarde doit se réfugier jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Shloshim Ushtaim Amot, devra avoir une largeur de 32 coudées. Amar Rav Huna Me'ekra, de quel pasouk apprend-on que la largeur du chemin qui permet d'accéder aux villes de refuge doit être d'une largeur de 32 coudées? Il répond, dit-il, parce que le pasouk dit dans Dvarim Yud-Tet, concernant les villes de refuge, Tachin lecha haderech, tu te prépareras un chemin pour pouvoir accéder facilement aux villes de refuge. Nous l'apprenons de derech haderech. C'est-à-dire, le pasouk aurait pu se contenter de dire derech, tachin lecha haderech, tu te prépareras un chemin, et le pasouk a ajouté la lettre he pour former le mot de haderech, le chemin. Cela vient ajouter un chemin supplémentaire. Donc comme nous savons qu'un chemin public en général est d'une largeur de 16 coudées, comme nous l'avons vu, ce pasouk qui vient ajouter un chemin supplémentaire vient nous enseigner donc que la largeur de ce chemin qui donne accès aux villes de refuge devra avoir une largeur de 32 coudées, qui est donc le double de la largeur d'une voie publique normale. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Derech HaMelech En La Shiur » Le chemin du roi n'a pas de limite. Alors, la Gemara explique, parce que la Mishnah dans Sanhedrin Daf Kaf Amud Bet enseigne chez Amelech Poretz Geder Lasot Lo Derech, un roi peut ouvrir une brèche dans une clôture pour se frayer un chemin, Ve'en Memachim Beyado, et on ne peut pas l'en empêcher. Finalement, nous apprenons de cette Mishnah que le roi peut se frayer un chemin n'importe où et sans restriction quant à la taille du chemin qu'il veut se frayer. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Derech HaKever En La Shiur » Le chemin qui permet d'accéder à la tombe, c'est-à-dire au cimetière, n'a pas de limite. Alors, la Gemara explique « Mishum Yekara Deshikva » en l'honneur du défunt. Les Chachamim ont donc permis de piétiner un champ pour accéder au cimetière, pour ne pas restreindre le nombre de participants à la procession funèbre. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Hama Amad » L'endroit où les endeuillés s'assoient en revenant d'un enterrement pour pleurer le défunt et prendre conscience de la vanité de la vie, Dayane Tzipori Amrou, les juges de la ville de Tzipori ont dit, Bat Arba Akabin, la superficie de cet endroit est de 4 caves, soit environ 600 mètres carrés. Donc une personne qui va à un tel endroit, celui-ci devra avoir une superficie de 600 mètres carrés. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Hamocher Kivro, celui qui vend son lieu de sépulture dans le caveau familial, ou bien Derech Kibro, le chemin qui permet d'accéder à son lieu de sépulture, ou bien Makom Amado, ou bien l'endroit prévu pour les membres de sa famille de le pleurer après sa mort, ou Betespedo, ou bien l'endroit prévu pour son éloge funèbre. En général, ces endroits appartenaient à toute la famille. Ba'in bene mishpacha vekovrimoto al kocho. Les membres de sa famille viendront après sa mort et l'enterreront dans son lieu de sépulture, même contre le gré de l'acheteur. C'est-à-dire, les chachamim ont institué de reprendre de force cet endroit en remboursant l'argent à l'acheteur, mishum pgam mishpacha, parce que c'est un déshonneur à la famille que l'un de ses membres n'a pas où être enterré. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Lorsque les membres d'une famille reviennent à l'enterrement, en pochatin mishiva ma'amadot u'moshavot lemet, ils ne font pas moins de 7 levées et assises en l'honneur du défunt. Autrement dit, ils ne s'arrêteront pas moins de 7 fois pour s'asseoir, pleurer le mort et prendre conscience de la vanité de la vie pour se relever à nouveau. Keneged vis-à-vis du pasuk au début de Kohelet qui dit Havel Havalim Amar Kohelet, Havel Havalim Hakol Havel. Vain et vanité, a dit Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Ameler, vain et vanité, tout est vain. Nous voyons donc dans le pasuk 3 fois le terme de Hevel, vain, puis 2 fois le terme de Havalim, donc au pluriel, ce qui nous donne 7 fois le terme de vanité ou vain. Et c'est pour cela que les membres de la famille s'asseyaient à 7 reprises pour pleurer le défunt et prendre conscience de la vanité de la vie. Amarle, Rav Acha Bered Rava le Ravashi, Rav Acha, le fils de Rava, a posé la question suivante à Ravashi. Hechi Avde, comment cela se passait, cette cérémonie de s'asseoir et de se relever? Amarle, Ravashi lui a répondu, Kedetania, comme il a été enseigné dans une breita. Amar Rabbi Yehuda, Bihuda, en Judée, Barishona. Au début, Lo hayu pochatin mi shiva mamadot umoshavot lemet. Il ne faisait pas moins de 7 levées et assises pour le défunt. C'est-à-dire, il ne s'arrêtait pas moins de 7 fois pour s'asseoir, pleurer le défunt et prendre conscience de la vanité de la vie pour se relever ensuite. Kegon, par exemple, le maître de cérémonie disait après s'être assis une première fois, Imdou yekarim amodou. Levez-vous, cher, levez-vous. Puis après avoir avancé un petit peu, il leur disait à nouveau, chevou yekarim, chevou. Asseyez-vous, cher, asseyez-vous. C'est pour cela que nous appelons ces cérémonies ma'amadot ou moshavot, c'est-à-dire levées et assises. Amroulo, les chachamim ont posé la question suivante à Rabbi Yehuda, imken, si c'est cela, cette cérémonie, av beshabbat mutar lasot ken. Même le Shabbat, il devrait être permis de faire ainsi, dans le cas d'une personne enterrée peu avant Shabbat, comme nous le verrons par la suite. Donc, puisque les chachamim n'ont pas expliqué comment se passait cette cérémonie, nous suivons l'explication de Rabbi Yehuda. Achate de Rami Bar Papa, hava nesiva le Rav Avia. La sœur de Rami Bar Papa était mariée à Rav Avia. Shriva, elle est décédée, avadla ma'amadu moshav. Il a fait cette cérémonie de levée et assise. Amar Rav Yosef, Rav Yosef a dit là-dessus, ta'a betarte. Rami Bar Papa s'est trompé sur 2 points. Ta'a, chez Enosin et la Bekrovin, il s'est trompé sur le premier point, qu'en général, cette cérémonie n'était faite que par les proches parents, c'est-à-dire ce n'est que les membres de la famille qui participaient à cette cérémonie, même ceux qui n'étaient pas concernés par les lois de deuil, par exemple les cousins ou autres membres de la famille. Vehu avad afilu berchokim. Et lui, il a fait participer à cette cérémonie, même les gens qui étaient éloignés et qui n'étaient pas de la famille. Veta'a, il s'est trompé sur un deuxième point, She'en osin ela beyom rishon. Cette cérémonie ne se faisait que le premier jour, c'est-à-dire en revenant de l'enterrement. Vehu avad beyom sheni. Et lui, il a fait cette cérémonie le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain de l'enterrement. Abaye Amar, Abaye a dit là-dessus, Behan Amita, il s'est trompé aussi sur cet autre point, She'en osin ela bebet akvarot. Cette cérémonie ne se faisait que dans le cimetière ou à côté. Vehu atzabayir. Et lui, il a fait cette cérémonie en ville. Rava Amar, Behan Amita, Rami Bar Papa s'est trompé aussi sur cet autre point, She'en osin ela bemakom shenagu. Cette cérémonie ne se faisait que dans l'endroit où il était usage de le faire, Vehatam Lonahug, et dans cette ville où sa sœur est décédée, il n'y avait pas l'usage de faire cette cérémonie. Nous voyons donc en tout cas que cette cérémonie ne se faisait que le jour de l'enterrement et au cimetière, En Métivé, on a opposé là-dessus. La Breta que nous avons mentionné précédemment, Amroulo, les Chachamim ont posé la question suivante à Rabbi Yehuda. Imken, si c'est ainsi que se faisait donc cette cérémonie, Av Beshabbat Moutar la Sotken, même le jour du Shabbat, il devrait être permis de faire ainsi. Ve'i Amart Bebet Akvarot ou Beyom Rishon, et si tu dis que cette cérémonie ne se fait que dans le cimetière et le premier jour, c'est-à-dire le jour de l'enterrement, Bet Akvarot Beshabbat Maibae, que fait-on au cimetière le jour du Shabbat? C'est-à-dire, on n'a enterré personne au cimetière le jour du Shabbat. L'Agma répond, Be'ir Asmucha le Bet Akvarot. Une telle situation peut se présenter dans le cas d'une ville proche du cimetière, Deam Tiuhu Ben Ashmashot. Et on l'a enterré au crépuscule, donc juste à l'entrée du Shabbat. Or le soir, c'est-à-dire le vendredi soir, peut être considéré encore comme étant le jour de l'enterrement. En effet, les endeuillés sont considérés ce soir comme étant Onen, c'est-à-dire l'endeuillé le jour de l'enterrement. Donc, en revenant du cimetière le vendredi soir, ils auraient dû faire cette cérémonie de levée et assise.
Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Davkouf. Nous commençons le shiur de Baba Batra Davkouf Alef. Nous commençons Davkouf Amudbet à la Mishnah en bas de la page. Or, la Mishnah dit « Hamocher makom lechavero lasot lo kever » celui qui vend à son prochain un endroit pour qu'il puisse y creuser un caveau familial, et aussi un entrepreneur qui reçoit de l'argent de son prochain pour lui creuser un caveau familial, celui-ci devra avoir les dimensions que nous verrons dans la Mishnah, et le vendeur devra donc fournir un endroit qui soit suffisamment grand pour pouvoir creuser un caveau ayant ces dimensions. Alors la Mishnah précise, Ose Tocha Shel Me'ara Arba Amot Al Shesh, il devra creuser l'intérieur de la première grotte de ce caveau familial, de manière à ce que les dimensions de celle-ci soient 4 coudées de large sur 6 coudées de long. Upoteach le tocha, et il ouvrira dans cette grotte, c'est-à-dire il creusera dans les parois de cette grotte, shmone kuchin, 8 niches qui serviront de tombe, shalosh mikan ve shalosh mikan, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et cela parce que comme nous le verrons par la suite, la largeur de chaque niche était de 6 tfachim, c'est-à-dire une coudée, soit 60 cm. Et entre chaque niche, chaque tombe, il devait laisser un espace d'une coudée. En tout, nous avons donc 3 niches ou 3 tombes. Entre elles, il y a 2 espaces, ce qui nous donne donc 5 coudées. La longueur de cette grotte était de 6 coudées. Il reste donc une coudée qu'il laissait de part et d'autre. Donc une demi-coudée du côté de l'entrée et une demi-coudée au fond de la grotte. Ou Shnaim Mikenegdam, et il en creusera encore 2. En face de l'entrée, c'est-à-dire au fond de la grotte. Ils seront disposés de la même manière, c'est-à-dire les 2 tombes plus un espace entre les 2 font 3 coudées. Il reste donc une coudée de la largeur de cette grotte qui sera partagée entre les 2 coins. Donc une demi-coudée du côté droit et une demi-coudée du côté gauche. Vekuchin et ces niches, donc ces tombes, étaient creusées sous forme de tunnels, de manière à pouvoir y glisser le cercueil couché. Okan Arba Amot, la longueur de ces niches était de 4 coudées, ce qui était la longueur moyenne d'un cercueil. Veruman Sheva, et la hauteur de ces niches était de 7 tfachim, soit environ 70 cm, parce que la hauteur du cercueil était de 6 tfachim. Il fallait un espace supplémentaire d'un tefar pour éviter que l'impureté transmise par le corps humain traverse la terre pour rendre impur tout celui qui passe au-dessus de cette tombe. En effet, Minatora, un cadavre humain ou un morceau de cadavre humain d'une taille d'une olive, s'il se trouve dans un endroit sans avoir d'espace d'un tefar au-dessus de lui, nous appelons cette situation une impureté emprisonnée ou comprimée. Dans ce cas, cette impureté traverse n'importe quoi et rend impur donc tout celui qui passe au-dessus. Mais si au-dessus de ce cadavre, il se trouve un espace d'un tefar, cette impureté n'est donc pas comprimée. Minatora, l'impureté ne traversera pas le couvercle ou le toit sous lequel se trouve l'impureté. Cependant, Midrabanan, celui qui passe au-dessus d'une tombe dans laquelle le cadavre humain a un espace d'un tefar, cette personne deviendra quand même impure. Mais donc, finalement donc, un Kohen n'a pas le droit de passer sur une tombe. Cependant, comme le précise Tosfot, dans certains cas, les Chachamim ont levé cette interdiction dans un cas où l'impureté transmise n'est que Midrabanan. Voir aussi le Maharam plus loin sur la Gemara d'Avkouf Alef Amoud Alef. Nous avons dit donc
que la profondeur ou la longueur de la niche est de 4 coudées, sa hauteur est de 7 tfachim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.